Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans nos studios Monsieur Xavier Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Maire de Senonche, conseiller régional et président de la communauté de communes du Senonchois.
Des forêts du Perche.
Les forêts du Perche, encore plus jolies. C'est super, d'autant que cette forêt, elle est vraiment magnifique.
Oui, c'est une grande forêt de 4300 hectares, une forêt domaniale, la plus importante du département, la plus importante du Perche.
On va peut-être parler aussi des énergies, surtout des énergies renouvelables, mais est-ce que la forêt en fait partie ?
Oui, la forêt en fait partie, car les forêts sont, sur la planète, avec le phytoplancton, le premier piège à carbone de la planète.
Le phytoplancton également.
Le phytoplancton et les forêts, avec la photosynthèse. Exactement, ce sont les deux gros pièges à carbone dont nous disposons. Et effectivement, au niveau de la forêt, et si vous voulez, lors d'une autre émission, on pourrait parler de cette forêt de Senonche et de la scénographie sur les forêts que nous avons récemment ouvertes au château de Senonche.
Donc, revenons à nos moutons et à la transition énergétique qui vous tient à cœur. En tant que président d'Énergie Eure-et-Loire et du territoire d'énergie de la région Centre-Val-de-Loire. Voilà un titre important.
Non, alors, c'est pas important, mais c'est utile à nos concitoyens, car en fait, depuis maintenant à peu près plus d'un siècle, hein, depuis la loi de 1906, depuis 110 ans, les réseaux électriques ont été réalisés par les collectivités, par les communes. Et les communes ont créé à l'époque des syndicats d'énergie pour investir et amener l'électricité à tous nos concitoyens.
Et tout ça parce qu'en fait, une toute petite commune ne pouvait évidemment pas subvenir aux besoins de sa commune.
C'est exactement ça.
Pour créer les...
C'est exactement ça. Il fallait trouver l'échelle pertinente pour réaliser ces investissements. Qui à l'époque d'ailleurs étaient des investissements pour souvent amener deux ou trois ampoules dans chaque maison.
C'était... Les poteaux en bois.
Et les poteaux, avec les poteaux en bois, puis en béton, voilà.
Tiens, à propos, est-ce qu'on fait un petit peu plus attention maintenant de façon à pouvoir enterrer ?
Oui, alors je vous en dirai un mot, ça fait partie effectivement, les enfouissements de réseaux font, vous avez tout à fait raison, font partie de nos activités. Donc en fait, nous étions jusqu'au début de cette année, 2017, nous étions le syndicat départemental d'énergie. Syndicat, c'est-à-dire qui rassemble l'ensemble des communes du département. Nous avions 310 communes fédérées pour traiter cette question.
Car c'est déjà une belle réussite parce que 310, pour arriver à les réunir et à les faire s'entendre,
oui.
C'est important.
Oui, c'est 360 délégués quand nous réunissons notre assemblée plénière. C'est 360 élus que nous réunissons 3-4 fois par an. Hein. Après, c'est bien évidemment le bureau qui est une échelle plus modeste qui administre bien sûr la structure. Mais pour revenir au cœur de métier du syndicat d'énergie, donc devenu en janvier Énergie Eure-et-Loire. Le cœur de métier, c'était effectivement au départ la réalisation, la construction de ces réseaux, bien avant l'existence d'EDF. Quand EDF a été créé ensuite, avec la loi de 1946, EDF est devenu le concessionnaire, le gestionnaire de nos réseaux. Il s'est ensuite fractionné en ERDF. Et EDF branche commerce, et ERDF est maintenant, vous le savez, devenu Enedis. Donc Enedis a un contrat avec nous, et un contrat, il est notre concessionnaire, il est notre gestionnaire de réseau au quotidien. Mais les investissements sont portés, certes, par Enedis, mais aussi par Énergie Eure-et-Loire, en très grande partie. Nous investissons à peu près 12 millions d'euros par an sur nos réseaux électriques.
C'est important.
C'est très important. Alors, ces investissements représentent souvent du renforcement. Hein, comme je vous disais, on est passé de quelques ampoules dans une maison à tout l'électroménager que nous connaissons aujourd'hui. Mais aussi de l'enfouissement de réseau à la demande des communes qui souhaitent effectivement améliorer l'esthétique,
hein, leur image.
Leur image. Mais au-delà de ça, nous, ce que nous voyons, c'est nous en profitons presque toujours pour améliorer la qualité de la distribution électrique. Car souvent, c'est l'opportunité de remplacer de vieilles installations devenues vétustes, qui ont parfois 50 ans, 60 ans. Et donc, on améliore en même temps la qualité de distribution.
Mais l'esthétique est aussi très importante.
Mais l'esthétique...
Je me souviens de Roman Polanski, qui pour tourner son film Tess, voilà quelques années, quelques décennies même, était allé jusqu'au fin fond de la Bretagne pour trouver des paysages vierges de lignes électriques.
Tout à fait. Je crois qu'il était allé à Locronan. Il fallait trouver effectivement un village qui ait du caractère et qui ait également engagé sa politique d'enfouissement de réseau, ce qui s'y prêtait fort bien compte tenu de la qualité du patrimoine bâti là-bas. Ouais.
Et il y a effectivement aussi le photovoltaïque.
Oui. Alors ça fait partie justement, et c'est un petit peu ce qui a motivé notre changement de nom. C'est que nous avons élargi nos compétences depuis quelques années. Le syndicat départemental d'énergie, il travaillait directement pour le réseau et les enfouissements que souhaitaient les communes.
Le réseau électrique.
Le réseau électrique. Bon. On a rajouté il y a quelques années la compétence gaz, hein, qui est facultative. Nous gérons la compétence gaz pour quelques dizaines de communes qui nous l'ont demandé. Et puis, l'évolution des questions liées à ces aspects énergétiques nous ont amené à ajouter de nouvelles compétences que nous proposons aux collectivités. C'est par exemple un système d'information géographique qui s'appelle InfoGéo 28, qui est aujourd'hui utilisé par toutes les communes du département, par les communautés de communes, les agglos et même l'État. Nous avons contractualisé avec l'État. Nous avons développé, à la demande des communes, un service de gestion de l'éclairage public. Et au moment où je vous parle, vous voyez, nous avons 165 communes du département qui nous ont transféré la compétence éclairage public. Nous gérons ainsi 30 000 points lumineux dans le département.
Mais uniquement en électricité, pas en gaz.
En électricité. Voilà. L'éclairage aujourd'hui, il est exclusivement électrique.
Oui, l'allumeur de réverbère, voilà. C'est un petit peu plus ancien.
C'est sympathique. On en a encore en soldat de plomb, mais plus beaucoup dans nos communes.
Et donc, tout ça vient de l'électricité, donc de l'énergie des centrales atomiques.
Alors, oui, l'électricité, aujourd'hui, on sait qu'elle est à plus de trois quarts d'origine en France et d'origine nucléaire. Mm-hmm. Bon, et puis, il reste un quart, donc, un thermique qui est en train de diminuer. Hein, les centrales à fioul disparaissent en France, à gaz... également, il y en a de moins en moins parce que...
Par contre, en Allemagne, ils ont renoncé totalement à leurs centrales et ils ont remis les centrales à charbon.
À charbon, avec un problème, effectivement, de gaz à effet de serre. Et en plus, c'est la lignite. Donc, il y a un énorme problème de pollution de l'air et de micro-particules, de CO2. C'est une vraie problématique.
Et je suppose que peut-être, on leur revend aussi de l'électricité.
Oui, on leur revend de l'électricité, c'est clair. On leur revend, puisque c'est un marché maintenant qui est à l'intérieur de toute l'Europe. Hein. On a des échanges de réseaux avec l'Allemagne, comme avec l'Espagne, et les pays, l'Europe. Et je vous en reparlerai dans un instant, d'ailleurs. Ça fait partie de nos évolutions de compétences. C'est que l'Europe est devenue un grand marché, y compris pour l'énergie, pour le prix de l'électricité.
C'est intéressant pour la France.
Alors, c'est intéressant pour la France
de vendre
effectivement, d'envoyer nos électrons à l'étranger. Bon, maintenant, il est important aussi de garder notre souveraineté énergétique et d'être dimensionné pour pouvoir faire face à toute situation. Vous voyez, cet hiver, par exemple, nous étions à la limite de nos capacités de production. Il est vrai que nous n'avons jamais eu la totalité de nos centrales en fonctionnement, puisque 6 tranches nucléaires étaient à l'arrêt complet au moment où il faisait très froid, hein, pour des raisons de maintenance. Mais vous voyez, malgré ça, on a réussi à passer sans incident.
Ça n'a pas sauté.
Rien n'a sauté.
Et est-ce qu'on a été obligé d'importer de l'électricité ?
Ça peut arriver certains jours de pointe. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'en premier, on déleste. C'est-à-dire que EDF a des contrats avec ce qu'on appelle les électro-intensifs, qui sont des industriels très, très gros consommateurs. Et RTE, qui est la filiale d'EDF, qui gère le transport d'électricité et en particulier l'équilibre entre la production et la demande, s'adresse à ces électro-intensifs pour les couper, en disant voilà, on vous coupe dans 30 secondes, on vous coupe dans une minute, on les prévient, et c'est tout de suite de la puissance récupérée. Après, il peut y avoir des délestages aussi, ça existe également avec des particuliers.
Hein. Oui, j'avais un ami qui avait signé un contrat très intéressant, au demeurant, avec EDF, voilà. Qui lui disait, voilà, bah, vous chauffez votre piscine, vous chauffez votre maison, très bien, mais avec ce contrat, on peut très bien vous dire, ce soir, pas d'électricité.
Tout à fait. Donc des gens, voilà, ils ont un avantage dans leur contrat de fourniture d'électricité, en échange de quoi ?
Important,
bien sûr, en échange de quoi on leur propose d'être coupés si nécessaire. Ça évite d'acheter parce que c'est un marché spot et le prix du kilowattheure peut, lorsque la demande est forte, être multiplié par 10, par 100, par 150. Donc on arrive parfois à des tarifs qui ne sont pas très raisonnables et il peut être plus intéressant effectivement de recourir à ces délestages.
Alors, il y a aussi le photovoltaïque, comme près de chez vous, à Crucet,
oui.
Où 750 000 panneaux oui. sont installés.
Oui, 60 mégawatts de puissance, ça fait partie des belles installations, effectivement, réalisées en France. Là, c'était...
Puis c'est bien parce que ça ne dénature aucun paysage. Oui, c'est très bien installé.
Là, ça s'y prêtait bien parce qu'il fallait éviter les terres agricoles, bien sûr, qui doivent être réservées à l'usage qui est le leur. Et il fallait, effectivement, il n'y a pas d'impact paysager non plus. Il y avait, comme ancien camp de l'OTAN, il y avait du béton. Ce sol ne pouvait de toute façon pas revenir à la nature. Et il y avait même, on va dire, des animations pas toujours recommandables qui avaient lieu sur ce site. Et ça simplifie la vie
des
de tout le monde.
Des festivals de Woodstock.
voilà, avec toutes sortes de consommations, bien sûr. Et ça facilite les choses. C'était vraiment, au fond, un projet gagnant-gagnant. De réaliser ce projet.
Qui permet d'alimenter 28 000 habitants.
Oui, ça correspond, voilà, une ville à peu près comme Dreux. Oui.
Par contre, je suppose que c'est un petit peu utopique de se dire on va mettre dans notre jardin une éolienne et fournir notre propre électricité. Ça, c'est inenvisageable.
Alors, aujourd'hui, oui. Demain, je ne sais pas. La difficulté, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la capacité de production, c'est que l'électricité ne se stockant pas de manière massive aujourd'hui, nous ne savons pas bien le faire. Donc, on est obligé de produire en fonction de la consommation. Demain, si on est capable de stocker de l'électricité, il y a plusieurs manières de la stocker. Alors, bien sûr, il peut y avoir des batteries, mais les barrages sont un moyen, parce qu'on peut aussi, lorsqu'on produit trop, on peut utiliser l'électricité en excédent pour remonter l'eau à l'intérieur des barrages. Et en stockant l'eau, finalement, on stocke quelque part. C'est une manière de stocker l'électricité puisqu'on a remonté l'eau en amont du barrage.
Mal.
Donc oui, ce sont des idées qui... Voilà. Mais au niveau des citoyens, aujourd'hui, ceux qui font leur toiture photovoltaïque vendent l'électricité à EDF.
Et ensuite, ils la rachètent
très
pour
cher,
la consommer.
Et ils la rachètent trois fois moins cher pour la consommer.
Et voilà. C'est intéressant quand même pour EDF.
Alors, pour EDF, c'est une mauvaise affaire, puisqu'ils achètent trois fois plus cher qu'ils ne revendent. Mais ne vous inquiétez pas pour EDF, puisque en réalité, c'est vous qui payez à travers une ligne que vous regarderez sur votre facture en rentrant chez vous ce soir. Tout en bas de votre facture d'électricité, il est écrit CSPE. Contribution au service public de l'électricité. Et la CSPE, elle sert justement à financer cette différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'électricité verte. Et vous verrez que c'est une part non négligeable de votre facture. Bon, elle sert aussi à alimenter en partie le Fonds Solidarité Logement, volet énergie, pour les personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture.
éoliennes.
Alors les éoliennes. Alors les éoliennes, c'est une autre forme de production d'électricité verte.
Elles sont très contestées.
Alors elles sont contestées sur un plan esthétique, sur un plan de l'intégration paysagère. Aussi au départ pour des raisons de coût, hein, comme pour le photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est un prix de revient bien plus élevé, bien sûr, que les méthodes de production plus traditionnelles. Mais la recherche évolue et on constate que le prix du mégawattheure éolien ou photovoltaïque diminue, hein, depuis 10-15 ans, diminue régulièrement. Et donc, là, on aura de moins en moins besoin de cette fameuse CSPE. Par contre, il faut avoir présente à l'esprit que ce sont des productions intermittentes. C'est-à-dire que le photovoltaïque ne fonctionne que lorsqu'il y a de la lumière.
Et les éoliennes quand il y a du vent.
Et les éoliennes quand il y a du vent. Donc on peut imaginer, au pire, un moment anticyclonique, sans vent, en pleine nuit, on n'a plus de production. Donc on est bien évidemment obligé d'intégrer cela. La solution, elle passera par le jour où il y aura des capacités, bien sûr, de stockage très importantes. Et ça répond à votre question de tout à l'heure sur les panneaux photovoltaïques de monsieur ou madame tout le monde. C'est que le jour où on aura des panneaux sur nos maisons qui alimenteront des batteries propres à la maison, ce jour-là, on pourra peut-être imaginer d'avoir des maisons autonomes sur le plan électrique. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui.
Déjà, on a des maisons qui ne dépensent plus d'énergie, qui sont...
Oui, alors c'est une des questions.
Des bois thermétiques.
Oui, alors les nouvelles constructions, effectivement, on a eu effectivement les normes BBC, RT 2012, avec ces normes-là, effectivement, on a des maisons qui sont beaucoup moins des passoires thermiques que les constructions qu'on réalisait il y a une cinquantaine d'années. Et ça fait d'ailleurs partie, vous voyez, de l'évolution d'Énergie Eure-et-Loir, pour revenir aux compétences de cette structure publique, c'est que maintenant nous engageons une politique volontaire de transition énergétique vers les collectivités dont nous sommes l'émanation, pour les aider à améliorer les performances énergétiques de tous leurs bâtiments. Je pense à des gymnases, à des vestiaires de stades, à des écoles, aux bâtiments culturels, médiathèques, cinéma, théâtre. Je pense également tout simplement aux locaux des mairies. Mais donc nous allons engager une politique de conseil et d'accompagnement de l'ensemble des communes et des communautés de communes du département pour respecter les objectifs qui ont été fixés par la loi, où c'est des objectifs pour 2020, 2030, 2050, diminution de la consommation d'énergie, diminution d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Donc tous ces objectifs-là doivent être respectés et nous devons y prendre notre part.
J'ai vu aussi ce que faisait Prévéo, 300 millions d'euros pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, des prêts bonifiés pour installation d'énergies renouvelables et efficacité énergétique dans des bâtiments qui ne sont pas privés. Donc oui, c'est ce que vous disiez,
exactement.
Dans des bâtiments publics.
Les bâtiments publics. Nous, on s'occupe des bâtiments publics. Néanmoins, pour vos auditeurs qui nous écoutent, moi je les invite aussi à aller sur notre site. Alors c'est le site qui s'appelle encore sde28.fr.
Oui.
Il s'appellera demain, bien évidemment, énergie28.fr. Mais pour le moment, bon, l'un ou l'autre, de toute façon, retombe sur SDE28. Et il y a un logiciel, LogiRénov, sur lequel ils peuvent aller et faire une simulation. Donc, j'ai envie de changer mes fenêtres. Voilà ma situation, j'ai une maison de tant de mètres carrés, elle est de telle année, je veux changer mes fenêtres, je mets le prix, ce que l'artisan m'a proposé comme devis. Alors il faut bien sûr que ce soit un artisan labellisé RGE. Et le logiciel est vraiment didactique, vous vous laissez conduire, il faut mettre ses revenus, parce que ses fonctions aussi, les aides sont fonction des revenus. Et à la fin, le système vous dit, ben, vous avez droit, voilà, vous en avez pour 4000 euros, et ben, vous, dans votre cas, vous avez droit à 1800 euros d'aide, et voilà lesquels. Et vous dit si c'est aide de l'économie d'impôt, une subvention prévue par la région ou l'État, certificat d'économie d'énergie. Vraiment, vous, en 3 minutes, vous arrivez en bas de l'écran et vous avez la réponse. Et ça, c'est vraiment accessible à tous nos concitoyens.
Ça n'est pas, par exemple, comme les monts-escaliers où on bénéficie d'un crédit d'impôt et si on ne paye pas d'impôt, l'État reverse la partie concernée. C'est-à-dire, si on a 25% de crédit d'impôt, l'État fait vraiment un chèque.
C'est vraiment un chèque, là, oui. Là, alors là, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un très grand nombre de possibilités. Et donc, il suffit vraiment de se positionner. Le système est un peu plus favorable aux propriétaires qu'aux locataires, mais tout le monde y a droit.
Et j'ai vu aussi une référence, ça s'appelle EcoRénov, avec un numéro à appeler 0810 140 240, où on donne également des indications et on répond à toutes les questions.
Voilà, on a développé ça aussi alors dans le Perche, hein, avec le pôle territorial du Perche, c'est EcoRénov.
EcoRénov
dans le Perche, où on a, et d'ailleurs qui est en travail en partenariat avec Énergie Eure-et-Loire, pour effectivement apporter les conseils tant aux collectivités qu'aux particuliers.
Et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup amusée, parce que j'imagine bien la chose. Il faut développer la méthanisation sur le terrain principalement agricole.
Oui, alors c'est aussi la méthanisation. Bon, la méthanisation, c'est quoi? C'est transformer de la matière organique en méthane. Hein, c'est une molécule CH4, voilà. Et,
ça ne coûte rien, c'est une énergie renouvelable.
Tout à fait. Et vous savez, les chercheurs nous disaient que si nous étions capables de transformer la totalité de nos déchets organiques.
La décomposition
dans nos poubelles.
Des ordures.
Voilà. Les ordures ménagères et les déchets agricoles. Mmh. Si nous méthanisions la totalité de ces déchets au niveau de la France, nous aurions 70% de nos besoins en méthane, c'est-à-dire en gaz naturel.
Et c'est énorme.
C'est énorme. Alors, attention, ça c'est sur un plan purement chimique. Je ne parle pas d'économie. Je ne vous dis pas que ça coûterait le même prix ou moins cher. Ça coûterait aujourd'hui, avec nos techniques de méthanisation, nous serions beaucoup plus chers que le gaz naturel, le méthane qu'on achète en Norvège, en Algérie, en Russie.
Oui, mais c'est ce que vous disiez. Tout ça, ça va progresser et
absolument.
Évidemment devenir de moins
et
en moins
demain,
cher.
Voilà, et demain, il y aura effectivement des solutions. Moi, j'ai visité plusieurs unités de méthanisation, dont celle du zoo de Beauval, dans notre région, qui est très intéressante.
Les tigres blancs.
Oui. Les pandas, les hippopotames.
Ce que je ne savais pas, c'était que les pandas étaient prêtés par la Chine.
Oui, ils sont à la Chine.
Mais ils n'appartiennent pas aux zoos,
non,
c'est extraordinaire.
Ils sont mis à disposition,
ça.
Voilà. Mais voilà, il y a une unité de méthanisation qui est très intéressante à Beauval, mais je suis allé les voir parce que c'est certainement la plus intéressante de la région. Mais j'ai pu constater encore les difficultés, à la fois techniques, parce qu'il faut vraiment purifier le méthane, il y a toutes sortes d'autres gaz qui sont mélangés, comme l'hydrogène sulfuré notamment. Bon.
Oui, ça ne suffit pas d'avoir quelques épluchures de carottes et de pommes de terre. Quoi.
Voilà, après il y a toute une technique à mettre en œuvre derrière, mais sinon on peut aussi le brûler, et puis c'est ce qu'ils font à Beauval, on peut le brûler pour faire de la chaleur et de l'électricité.
Très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi peut-être, ce sont les emplois qui sont générés par le secteur des énergies renouvelables.
Oui, c'est
on
vrai.
On peut quantifier cette...
Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais voyez, nous sommes en train de créer, là, nous allons recruter, là, j'ai les entretiens d'embauche début mars, nous allons recruter deux conseillers en énergie partagée pour justement accompagner les collectivités. Alors, pour nous, ce sont les collectivités, mais pour d'autres, on les recrute aussi pour accompagner les particuliers dans cette politique de transition énergétique. Mais vous savez, au niveau des chantiers dont nous parlions tout à l'heure, quand je vous parlais de nos 12 millions d'investissements sur les réseaux électriques, nous avons à Énergie Eure-et-Loire une toute petite équipe, nous sommes une vingtaine de personnes, mais nous faisons travailler à travers des marchés publics des entreprises du département. Et ces entreprises.
Et il y en a beaucoup d'entreprises.
Oui, nous faisons travailler plusieurs
J'en
entreprises.
J'en ai vu beaucoup de répertoriés, voilà. Très intéressants.
Tout à fait. Hein, des grandes entreprises, hein, comme ici à Dreux, il y a Ineo, il y a Eiffage, Énergie.
Mais même des petites.
Il y a Denain, il y a Somelec, Cegelec, H2E. Enfin, toutes ces entreprises qui travaillent pour nous, c'est 200 emplois qui travaillent exclusivement pour Énergie Eure-et-Loire, à travers nos marchés.
Bravo, monsieur Nicolas, vous nous avez passionnés et bien sûr, on se retrouve bientôt. Et c'est avec un grand plaisir que vous reviendrez nous voir.
C'est un plaisir partagé.
C'est Émilie Glory qui enregistrait et réalisait cette émission de l'écho de ma commune depuis nos studios du Rocas. Au revoir.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever, I'm a fire.
Fever, yeah, I burn for sooth.
She said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right?
Now you've heard our story.
Oh, it's your story.
Here's the point that we have made. Chicks were born to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever.
Ooh, 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 ooh.
When you kiss them, fever, if you live, you learn.
Fever,
tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh, what a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Ooh,
all right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely, what a lovely way to burn. You ain't right, Rick.